Bonsoir à chacun, à chacune. Nous sommes conscients d'être dans la présence du Seigneur et Dieu est là pour nous aider à marcher de progrès en progrès. Lorsque nous écoutons les prières, nous sommes tous conscients que nous voulons aller au-delà de la présence de Dieu. Nous sommes conscients de sa présence. Mais lorsque j'entends les prières, je ressens dans mon cœur que plusieurs veulent voir la gloire de Dieu. Et il y a une immense différence entre être dans la présence de Dieu et travailler de sorte que nous verrons sa gloire. Ce soir, je vais comme faire une introduction à ce sujet pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Vous avez certainement été étonné en lisant la Bible de voir certaines histoires. Par exemple, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, quand Paul écrit aux Corinthiens, c'était dans les années 50, donc il y avait déjà 20 ans, 25 ans que l'Église primitive avait démarré. Je crois que c'est en 51 ou 52 que Paul écrit aux Corinthiens. Et il s'avère qu'il écrit à cette Église parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Et entre autres, il parle d'un problème de débauche où un jeune homme couche avec sa belle-mère. Vous connaissez cette affaire et Paul est profondément peiné de voir que cette affaire n'est pas réglée. Et les Corinthiens, repris par la prédication donc de l'apôtre Paul, vont régler le problème. Ils vont le faire même un petit peu trop sévèrement, presque à ne pas pardonner. Mais ça c'est autre chose. Nous voyons donc qu'il y avait le péché dans l'église de Corinthe, malgré le fait que c'était une église qui avait la présence de Dieu, il y avait même les dons spirituels, mais cet homme vivait dans le péché et ça ne contrariait personne apparemment. Alors que quand nous lisons le livre des Actes au chapitre 5, il se passe quelque chose. Vous connaissez, il y avait un homme qui était, vous savez, Barnabas, un homme de Chypre à cette époque. L'île de Chypre était une île qui était très, 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 très riche. Donc, c'était un homme certainement très riche qui s'était converti et qui a fait don d'un champ à l'église de Jérusalem. Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Il y avait une telle onction du Saint-Esprit, beaucoup de gens, même très riches, faisaient des dons pour les nécessiteux et pour l'avancement du royaume de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé au chapitre 5, c'est qu'il y a eu un couple de chrétiens, certainement aisés aussi. Regardez ce qui s'est passé. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du champ, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Amen. Donc, deux histoires. J'ai pas lu celle qui s'est passée dans l'église de Corinthe, où il y avait le péché dans l'église de Corinthe, mais apparemment, le Saint-Esprit n'est pas intervenu. Dans l'église de Jérusalem, nous voyons un couple qui s'est accordé pour mentir. Après tout, ils en faisaient ce qu'ils voulaient de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Le problème, ce n'est pas qu'ils aient donné ou pas donné une partie de l'argent. Le problème, qu'ils se sont accordés pour mentir. Ils étaient peut-être jaloux de ce que ce fameux Joseph de Chypre avait donné une grosse somme d'argent. Peut-être qu'on parlait d'eux dans Jérusalem. Vous avez vu ce gars, l'argent qu'il a donné. Peut-être qu'eux, ils ont été jaloux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, une chose, un truc s'est passé dans leur cœur. Mais voilà, dans l'église de Jérusalem, à cette époque-là, il y avait la gloire de Dieu. Et ce que nous allons aborder va nous amener à comprendre que quand il y a la gloire de Dieu, le jugement de Dieu est imminent. Quand il n'y a pas la gloire de Dieu, le jugement est reporté. Vous allez bien le comprendre avec ce qui s'est passé du temps de Élie, du sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Vous connaissez dans 1 Samuel. Il faut comprendre les choses. Je voudrais vous donner une introduction pour que nous puissions aller plus loin dans le fait si nous voulons, oui ou non, voir la gloire de Dieu. Vous savez que du temps de Samuel, quand Samuel est né, on voit combien Dieu a béni cette femme Anne. Il y avait la présence de Dieu dans le temple. Mais il n'y avait plus la gloire de Dieu. Je voudrais que ce soir vous compreniez bien ça. C'est important si nous voulons aller plus loin. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu n'intervient pas comme il est intervenu dans le livre des Actes. Mais vous allez le comprendre, c'est très facile à comprendre. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici de quelle était la manière de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, ou tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra pas de toi de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras de ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles songes? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. » Vous avez vu la réprimande, hein? Ça va pas loin. « Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Donc, là aussi, nous avons une affaire terrible. Les sacrificateurs vivent dans le péché le plus grossier. Ils s'autorisent même à faire, à faire pécher des femmes qui, certainement, je pense, devaient venir prier dans le temple. Ils ont réussi à en séduire certaines pour coucher avec. Mais voyez, Dieu n'intervenait pas. Alors que quand vous regardez peut-être, combien, je ne sais pas moi, 20 ans après, 25 ans après, quand David, oui à peu près 25, quand David a voulu ramener l'arche de Kirjat Jearim à Jérusalem, je ne sais pas si vous vous rendez compte, lorsque David s'y est pris avec, avec sa bonne volonté, avec une bonne intention, comment ramener l'arche, et bon, on va faire comme faisaient les Philistins, il n'a pas réfléchi qu'il aurait dû consulter la parole de Dieu, il a consulté les frères, il a bien fait, tout le monde était d'accord, mais à des moments, c'est pas, il ne faut pas avoir le conseil des amis, il faut avoir la pensée de Dieu. Et le problème, c'est qu'il a... Il a fait ramener, mais sur des chars, alors que l'arche ne devait être portée que sur les épaules des sacrificateurs. Et lorsque David, qui avait choisi lui-même un jeune homme, c'est lui qui l'avait choisi. C'était quelqu'un qu'il devait connaître en plus. Il a choisi Ouza, et Ouza s'est rapproché du char lorsque le char a basculé et allait faire tomber l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme est mort. Alors on pourrait se dire, attends, mais il touche l'arche alors qu'il est en train quand même de faire quelque chose de bien. Et il meurt. Et les fils d'Élie, qui sont dans le péché le plus grossier, eux, ils vivent tout cela, presque comme si Dieu laissait passer. Et ça, c'est un problème aujourd'hui qui nous pend au nez, c'est-à-dire que quand il n'y a que la présence de Dieu, Dieu ne châtie pas forcément. Vous me suivez? Le jugement de Dieu, il se manifeste, dans la Bible on le voit, je peux vous donner d'autres exemples, quand la gloire de Dieu est dans le peuple de Dieu. C'est éminent. Et quand il n'y a que la présence de Dieu, oui, il faut le dire comme ça, le jugement, il y sera, mais il est différé. Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'autorisent et qui disent, mais moi le péché, de toute façon, moi il ne se passe rien, moi je... Le Seigneur, il est bon, Seigneur, ta grâce. Mais laissez-moi vous dire que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et si quelqu'un vit dans le péché, il en portera les conséquences. Même si le jugement est différé. Les fils d'Élie n'ont pas compris ces choses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas. Bien sûr que, est-ce que nous sommes prêts à vouloir voir le jugement éminent de Dieu dans l'Église? Cela veut dire que si nous soupirons après la gloire de Dieu, Dieu peut nous étonner. Parce que le Seigneur, vous le voyez, il est intervenu de suite. On ramenait l'arche de Dieu à Jérusalem, donc on ramenait la gloire de Dieu en Israël. Et là, le Saint-Esprit est intervenu. Pourtant, David était un homme sérieux. On ne pouvait pas faire mieux. Faire ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Mais voyez, ce n'était pas comme Dieu voulait. Et je crois que si on veut voir la gloire de Dieu sur notre assemblée, sur la France, il ne faut pas faire les choses comme nous on a envie. Ce n'est pas à nous de dire, ah ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut chercher l'inspiration dans la parole de Dieu et non pas chercher l'inspiration dans le monde. Et on a vite fait de savoir aujourd'hui, en regardant ce qui se passe dans les églises, où on va chercher l'inspiration. Moi, je vous dis quelle sera la prochaine musique chrétienne. Je vais vous le dire ce soir. La musique électro sera la musique chrétienne qu'il y aura bientôt dans les églises. Vous pariez? Parce que la musique électro, c'est la dernière musique qui est sortie dans le monde. Vous avez compris le danger? Et on ira chercher, on ne va pas chercher l'inspiration dans la parole de Dieu. Bientôt dans les églises chrétiennes, les jeunes, tenez-vous bien, vous verrez des cantiques électro. Et ça, c'est grave. Vous me croyez? C'est ce qu'on verra. Vous le verrez. Ce qui nous prouve, alors je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire où on va chercher l'inspiration. Si on va la chercher dans la présence du Saint-Esprit, ou si on va la chercher dans le monde. David était en train de ramener la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ça se prépare. Et ce que je voulais ce soir partager avec vous, c'est cette pensée. Voulons-nous la présence de Dieu, elle y est. Vous voyez, les fils d'Élie étaient pervers, mais voyez, la bénédiction de Dieu est tombée sur Anne, qui, c'était dans le même cas, c'est en même temps que ça s'est passé tout ça. Anne cherchait Dieu, il y avait la présence de Dieu, Dieu ne manifestait pas son jugement parce que la gloire de Dieu n'était plus, la Bible dit que les visions étaient fréquentes en ce temps-là, que la lampe était en train de s'éteindre, ça représente l'image d'un Dieu qui s'éloigne, la gloire de Dieu qui s'est éloignée, d'ailleurs quand ses filles sont accouchées, quand la belle fille a accouché, elle l'a appelée, vous savez, Ichabod, ça veut dire la gloire, vous avez vu, 1 Samuel 4, 21, quand elle a appris la brave femme que ses fils étaient morts, mais surtout que l'arche avait été prise, regardez, 1 Samuel 4, verset 21, elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël et l'arche de Dieu est prise ». Voilà, mais il n'empêchait que, même si la gloire de Dieu était partie d'Israël, de Jérusalem, la bénédiction de Dieu était sur Anne, car Dieu peut ne pas bénir l'Église, mais il bénira les individus, alléluia, qui sont sérieux avec lui. Dieu est juste, vous le comprenez bien. Mais je crois que nous ne voulons pas juste des bénédictions individuelles. Moi, je crois que Dieu bénira celui qui le craint. Et on va revenir sur la crainte de Dieu. Je pense dimanche, je suis en train vraiment de me préparer pour dimanche, parce qu'il faut que la pensée du Seigneur soit apportée à l'Église pour que nous comprenions ce qu'il faut vraiment vivre et faire pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Alors c'est vrai que grâce à une femme comme Anne qui a enfanté Samuel, tout un travail est revenu en Israël, la parole de Dieu est revenue en Israël, la bénédiction de Dieu est revenue en Israël, etc. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et nous ne devons pas nous gargariser en disant « bon, le Seigneur est au milieu de nous » et ça c'est vrai, que vous soyez d'accord ou pas, Dieu est là, Dieu il est présent. Sa présence, elle est là. Et Dieu bénira l'individu pieux qui le cherche et qui le craint. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Voilà. Dans une église de 1000 personnes, s'il y en aurait 999 qui vivent dans le péché, celui, le juste qui pratiquera la justice sera toujours béni. Que le son nom soit glorifié. Mais voilà, nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord? Et nous avons un prix à payer. Pour que la présence de Dieu soit là, il n'y a rien à faire. Il y a se rassembler. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'y a pas d'effort à faire. On vient à l'église, on est là, on écoute la parole, on partage, on prie, voilà. Le Seigneur, il est présent et il bénit quand même individuellement tous ceux qui sont soucieux. Et ceux qui sont dans le péché, parfois, peuvent dire, bon, Dieu ne m'a pas jugé, Dieu ne m'a pas condamné. Alors, ça fait que, bon, ça ne doit pas être bien grave. Bon, moi, Ananias, ils ont menti avec Saphira. Bon, ils sont morts, c'est bizarre, tout ça. Moi, j'ai menti, bon, il ne s'est rien passé. Peut-être que le Seigneur, il fait un passe-droit. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ça, c'est une grosse affaire aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens se permettent de vivre dans cette espèce de nonchalance, de négligence, de paresse, et ils s'endorment. Le résultat, c'est que non seulement des âmes n'entrent pas dans le royaume de Dieu, mais le deuxième résultat, c'est que beaucoup de chrétiens sont en train de s'éteindre et de se perdre et devenir ces vierges folles qui ne seront pas prêtes le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et je voudrais que nous nous appliquions, puisque nous sommes venus sous le regard de Dieu. Je pense que si vous êtes venus, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Vous voulez mieux comprendre la parole de Dieu, mieux saisir sa pensée. Et lorsque David a été troublé par la mort de Uzza, il est dit qu'au bout de 3 mois après, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup été exaspéré, mais il a cherché dans la loi de Dieu. Et c'est vrai que je lisais tout à l'heure qu'il y avait même une copie de la loi qui était faite pour les rois, pour que le roi, il lise chaque jour afin qu'il ait la crainte de Dieu. Les rois devaient lire chaque jour la parole de Dieu pour qu'ils puissent diriger le peuple avec justement ce saint respect. Alors la crainte de Dieu, pour ceux qui découvrent l'Évangile, c'est pas là un esprit de crainte, c'est un respect profond des choses de Dieu. Et Dieu veut que nous l'aimions, parce que c'est quelque chose de prioritaire, il doit y avoir énormément d'amour, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, mais toute la Bible nous enseigne, il y a au moins une centaine de versets qui nous parlent de l'importance de craindre Dieu, de le respecter. L'amour nous attache à lui, et la crainte nous empêche de pécher. C'est exactement ça. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsqu'un chrétien s'applique à aimer Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut également qu'il ait la crainte de Dieu. Et c'est ce qui fera que l'Église va vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, que l'Église va découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez vu qu'Ananias et Saphira sont tombés, il est dit que la crainte s'est emparée de chacun. Il est même écrit quelque chose qui paraît contradictoire, il est dit « personne du peuple n'osait s'ajouter » et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour. Vous avez vu ? Mais les gens qui s'ajoutaient à l'Église s'ajoutaient par respect. Ils comprenaient qu'il y avait un prix à payer, qu'on ne devient pas disciple juste par intérêt. Le Seigneur les bénit. Non, les gens calculaient que le Dieu de Jérusalem, le Dieu de l'Alliance, le Seigneur Jésus, est un Dieu qui mérite que nous lui apportions notre crainte. Et on se demande pourquoi il n'y a pas de réveil, mais moi je vais vous le dire, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Dieu, mais c'est parce que nous n'avons pas compris que le Seigneur, il faut que l'on ramène l'Église au modèle de l'Église primitive et attendre le baptême du Saint-Esprit, attendre la pensée du Seigneur. Les 120 parmi les dizaines de milliers qui ont été bénis ont écoutez la voix de Jésus. Jésus leur avait dit, vous resterez à Jérusalem, vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous devrions dire, mais le modèle c'est ça, il faut qu'en fonction de ma vie, en fonction de ce à quoi Dieu m'appelle, en fonction du ministère que j'ai reçu, en fonction de ce à quoi je suis destiné, etc., eh bien, je m'attende à Dieu. Alors je ne sais pas ce à quoi Dieu vous appelle, je ne sais pas le temps que vous avez, mais je crois qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel et le baptême du Saint-Esprit. Avons-nous pas besoin d'un baptême de l'Esprit ? Dites-moi. N'avons-nous pas besoin d'être tout à nouveau rebaptisés du Saint-Esprit ? Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas que le parler en langue. Bien sûr, c'est une conséquence, mais c'est tout un attachement à Dieu. C'est aimer sa présence. Il y a des gens, le parler en langue, ils font une fixation sur le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est un baptême de la présence de Dieu. Je suis immergé dans sa présence. Il est là et je me plonge dans sa présence. C'est pour ça qu'on l'appelle un baptême. Quand on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau pour donner l'image qu'il est passé de la mort à la vie. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pareil, c'est une immersion de tout l'être. Et si, quand Dieu a manifesté sa présence, voyez, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, quand Dieu a manifesté sa présence par Moïse dans le tabernacle. Vous vous rappelez dans le Lévitique au chapitre 9, Moïse a fait tout d'après le modèle. La gloire de Dieu est venue sur Israël. On peut le lire, c'est simple. Dans Lévitique au chapitre 9, qu'est-ce qui se passe ? On voit Moïse, il est sérieux, Dieu lui dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Moïse était un homme très 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 instruit, très intelligent, il n'a pas dit à Dieu, ah mais moi tu vois, on pourrait, à la place de mettre des pots de dauphin, on pourrait mettre des pots d'espadon, ça serait peut-être plus joli. Vous voyez, il a fait tout d'après le modèle. Et la gloire de Dieu est venue sur le tabernacle. C'est extraordinaire, c'est ce qu'on veut, parce qu'ils ont fait les choses comme il faut. Au chapitre 10, on en voit deux qui vont faire les choses à leur guise. Mais il y a la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous les connaissez ? Les deux copains à Ophni et Phinès ? C'est Nadab et Abihu. Lévitique chapitre 10. Donc, la gloire de Dieu est venue sur le tabernacle. On le voit au verset 23. Moïse, Aaron et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Vous y êtes ? Lévitique 9, 23. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Vous y êtes ? Verset 10, chapitre 10. Les fils d'Aaron, là aussi encore, des fils de pasteurs, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ceux qui ne leur avaient point été ordonnés. Il y avait la gloire de Dieu dans le tabernacle. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Vous voyez ? C'est exactement ce qui s'est passé. Quand il y a eu la gloire de Dieu sur l'église de Jérusalem, Ananias et Saphira ont été consumés. Là, c'est pareil. Voilà deux serviteurs de Dieu. Alors, est-ce qu'ils se sont autorisés ça ? Parce que c'était les fils d'Aaron, j'en sais rien. En tous les cas, ils ont apporté leur adoration, leur façon de faire, le parfum à leur façon. Et voyez, mes frères et sœurs, ce soir, nous sommes là, nous avons entendu des prières. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai participé plutôt, et j'ai dit Amen. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Vous pouvez lire dans la Bible tout ce que vous voulez. Il y a une chose que Dieu veut, c'est manifester sa gloire. Il veut des temps de rafraîchissement. Il veut des temps de restauration. Il veut des temps d'onction. Il veut manifester la pluie de l'arrière-saison. Vous êtes d'accord ? On le sait. Si vous connaissez Dieu, vous savez une chose. Il a fait de nous aujourd'hui, c'est plus le tabernacle, c'est plus le temple. C'est nous les pierres vivantes. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut manifester sa gloire au travers de nous. Et il ne faut, ou alors on peut le faire, ça c'est un choix, Dieu le voit. Ou nous nous contentons de sa présence qui bénira les églises qui se tiendront sérieusement, avec piété, les individus qui, comme Anne, malgré le péché qui était là dans le peuple, dans le temple et tout, cette femme, elle a obtenu la bénédiction du Seigneur, alors que je peux vous dire que la gloire allait sortir d'Israël, mais elle a été bénie. Et toute sa vie, cette femme a été dans la grâce de Dieu, parce qu'elle était pieuse. Ou alors nous nous contentons de faire comme ça, la présence de Dieu et une piété individuelle, parce qu'après tout, chacun peut entendre la parole de Dieu qui dit « Que t'importe les autres, toi, suis-moi. » Ou alors, nous prenons le problème à bras-le-corps et nous faisons comme David, et même s'il y a des choses qui nous révèlent qu'encore le Seigneur ne s'est pas manifesté, eh bien de mieux chercher. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'Église, dans l'Assemblée, qu'est-ce qu'il faut faire dans ma vie pour que vraiment tu puisses manifester de plus en plus ta présence. C'est vrai que si la gloire de Dieu se manifeste, nous aurons des surprises. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Parce que pour les gens, la gloire de Dieu, c'est que de bonnes choses. Mais je peux vous dire que, enfin, vous avez compris, avec le peu que vous venez de partager avec moi, vous voyez que la gloire de Dieu est également liée au jugement. Oui ou non ? Est-ce que j'exagère ? Et non. Mais je crois que ça vaut la peine de dire, mais Seigneur, nous aujourd'hui, c'est nous le temple. C'est qui le temple du Dieu vivant ? C'est nous. On le lit dans 2 Corinthiens. C'est bien le tabernacle et la gloire de Dieu sur le tabernacle. C'est bien le temple de l'Éternel et la gloire de Dieu dans le temple de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Dans un contexte où l'apôtre dit, mais justement, vous voyez l'église de Corinthe, il n'y avait plus la gloire de Dieu. Il y avait la présence de Dieu qui bénissait par les dons spirituels. Il y avait des guérisons, mais il n'y avait plus cette gloire. Ça fait que les gens qui vivaient dans le péché ne se sentaient pas repris. 2 Corinthiens chapitre 6, voyez, au verset 16, bon, il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Et je ne sais pas si nous le réalisons pleinement, nous les chrétiens, c'est nous le temple, ce n'est pas le local, 9 rue Saint-Guilhem, quand nous partons, c'est un local. C'est qu'un local. Dès que des chrétiens se rassemblent, ce local, c'est la maison de Dieu. Et Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est un jeune pasteur, il devait être enseigné comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. C'est un peu ce que nous sommes en train de partager ce soir. Alors voyez, le tabernacle a eu la gloire de Dieu, le temple a eu la gloire de Dieu, l'église primitive a eu la gloire de Dieu, c'était la pluie de la première saison, mais moi je sais, par les prophéties, qu'il doit y avoir la pluie de l'arrière-saison, avant la moisson. Vous savez que partout, normalement, maintenant tout est détraqué bien sûr, vous voyez là on dit qu'il y a du beau temps, mais moi je peux vous dire que c'est du très mauvais temps. Vous avez vu la journée qu'il a fait ? Il a fait beau, mais laissez-moi vous dire qu'en vérité, c'est pas du beau temps. Parce qu'il devrait pleuvoir. Vous voyez ? Mais nous, on n'a pas cette capacité de comprendre. Je peux vous dire que c'est du très mauvais temps. Bien sûr, moi, j'apprécie ces journées. Mais croyez-moi, ce n'est pas bon du tout. Bon. La pluie de l'arrière-saison. En Israël, en avril, il pleut. Et la moisson, pas la moisson, la récolte grossit, regorge, etc. Avant la moisson, il doit y avoir la pluie. Et je vous assure que ce que Dieu veut, c'est qu'avant que l'Église soit moissonnée, il veut envoyer la pluie. Amen. Je vous assure. On peut se dire, mais est-ce que vraiment, oui, Dieu veut. Et nous n'avons pas resté passifs, blasés, dans cette espèce de status quo spirituel. On dit, voilà, ben c'est comme ça, rien ne se passe. Alors on attend l'enlèvement de l'Église. Non. Je crois que les chrétiens, ils ont une volonté, ils ont le pouvoir de décider, de faire en sorte que Dieu se manifeste. Alors Seigneur, oui, je suis le temple du Dieu vivant. Alors on va lire ce qui est écrit, c'est pas compliqué. Dieu l'a dit, j'habiterai, on le voit, la volonté de Dieu, d'habiter, bon ça c'est sa présence, et de marcher au milieu d'eux. Alléluia, voilà, ça c'est sa gloire. Dieu veut marcher dans l'Église et bénir l'Église. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà, ça c'est le contrat qui s'est passé à la croix. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et de nouveau, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est dommage presque que le chapitre 7, il n'y a pas le verset 19 là. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et pour que Dieu puisse marcher au milieu de nous, parce qu'il habite au milieu de nous, ça c'est une évidence, ça c'est clair, il est au milieu de nous. Mais nous voulons le voir marcher au milieu de nous. Nous voulons le voir se manifester au milieu de nous. Et il y a des choses qu'il faut extraire. Il y a des choses qu'il faut garder, mais il y a des choses qu'il faut sortir de notre vie. C'est nous le temple. Et chacun, nous avons une grosse responsabilité. Chacun, individuellement, nous devons nous dire, voilà, mais est-ce que ma vie est sainte ? Dans les Lévitiques, on ne lit pas tout, je vous ai fait un petit résumé. Mais il est bien question, Dieu dit, voilà, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Les croyants, ils le savent, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et c'est un choix que nous devons faire. Notre choix, ce ne doit pas être des prédications qui fassent plaisir à tout le monde, pour garder le maximum de monde, pour avoir le maximum de monde. La prédication, ça doit être la prédication de la croix qui amène les gens à la consécration. Jésus, quand des foules le suivaient, de grandes foules le suivaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de grandes foules suivaient Jésus. C'est l'apothéose, c'est le succès, c'était le succès. Mais c'est pas ça le succès. Quand les foules le suivaient, Jésus s'arrêtait, se retournait et leur disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me préfère à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants et même à sa propre vie. Car celui qui ne se hait pas lui-même ne peut être mon disciple. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'assoie et qu'il calcule la dépense. Et je peux vous dire que quand Ananias et Saphira sont tombés morts dans le temple, je peux vous dire que ceux qui se sont rajoutés à l'église ont dû calculer la dépense. C'est de ce Dieu-là qu'on veut, de ce Dieu saint et puissant. Qu'est-ce que nous voulons, un Dieu qui distribue les bénédictions ou un Dieu qui manifeste vraiment sa gloire et de voir des multitudes pleurer sur leurs péchés? Ah, c'est sûr que si la gloire de Dieu vient, la petite connaissance que j'ai de la gloire de Dieu dans la Bible me pousse à vous dire qu'il peut y avoir du jugement imminent. Mais est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Est-ce que nous disons, Seigneur, il y a des choses, il faut qu'elles sortent de ma vie. On le voit, cette délicatesse. Voilà, je vous le dis, Dieu le dit, je suis au milieu de vous, je serai votre père, vous serez mes filles, vous serez mes filles. Voilà ce que je vais faire, j'habiterai avec de telles promesses, mais purifions-nous. Il y a des choses, elles ne sont pas bonnes dans notre vie, il faut s'en séparer. Voilà, je fais telle chose, c'est bien, je fais telle chose, c'est pas bien, ça ne plaît pas à Dieu. Demandez-lui à Dieu. Des fois, les gens viennent me trouver et me disent, voilà, monsieur, est-ce que ça, c'est bien? Je dis, mais ils le savent, les gens, plus. Est-ce que passer 6 heures devant Internet, c'est bien? Quand on n'a pas passé un quart d'heure devant le Seigneur, est-ce que c'est bien? Mais non, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, c'est une idole. Ça prend toute la place. C'est une idole. Et le Seigneur, il le dit, séparez-vous, enlevez toutes les idoles, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Alors tout le monde peut dire, oui, on fait partie du peuple de Dieu. Et c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce que nous voulons? Avec le Dieu que nous avons, avec le grand Dieu que nous avons, est-ce que Dieu peut visiter Toulouse? Est-ce que si un réveil, Dieu peut nous trouver un local? Est-ce que les locaux appartiennent à Dieu? Tout à l'heure, on parlait des distances astronomiques de l'univers. C'est un truc de fou. Est-ce que Dieu peut trouver un local s'il y a besoin d'un réveil? Moi, je crois que tout appartient à Dieu. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut d'abord qu'elle lui appartienne, c'est notre cœur. En entier. Et Dieu dit, mais je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et ce que nous partageons ce soir peut nous aider à être enseignés dans la crainte de l'Éternel. Et en fin de compte, cette introduction ce soir que je vous fais pour les prochaines réunions, c'est pour que vous puissiez prier pour que nous soyons enseignés dans la crainte de l'Éternel. C'est écrit dans le psaume 34. On va terminer avec ça et j'aimerais qu'on ait un moment de prière. On va lire deux textes. Le psaume 34. C'est le psaume 34. Oui, c'est ça, oui. Alors, on va lire à partir du verset 8 au verset 12. Il est plusieurs fois rappelé la crainte. Alors la crainte, je le répète, c'est un grand respect. C'est un grand respect. Ce n'est pas la peur. Psaume 34, verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Amen. « Et il les arrache au danger. » Vous le croyez ça, que les anges vous gardent? Moi, je le crois. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Vous voyez, c'est la crise, mais laissez-moi vous dire que si vous craignez Dieu, rien ne vous manquera. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de combien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Nous avons besoin d'être enseignés dans l'amour de Dieu. Quelqu'un peut me dire ce soir, vous savez, il y a des gens, ils pinaillent sur tout. Je veux dire, oui, mais il aurait mieux fait de parler sur l'amour de Dieu. C'est ce qui va nous rapprocher de Dieu. Vous avez raison. Mais la crainte de l'Éternel nous empêchera de pécher. Et nous voyons que s'il faut être enseigné dans l'amour, ça c'est évident, quoi que je me demande si on peut enseigner l'amour sans être avec quelqu'un. On ne peut pas enseigner quelqu'un à aimer Dieu s'il n'est pas avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je pense qu'on peut enseigner, avec le peu qu'on vient de voir, la crainte de Dieu. Oui Seigneur, nous voulons voir ta gloire, mais pour cela il faut qu'il y ait un esprit de sainteté dans l'Église, dans mon cœur. Seigneur, il faut absolument que je m'éprouve moi-même. Il y a des chrétiens qui ne vont pas bien. Ils tolèrent le black, le travail au noir. On le voit ça des fois. Je connais un chrétien, il est parti. Je dis, mais c'est pas sérieux. Ah ouais, mais vous savez, ça arrondit les fins de mois. Je dis, mais c'est pas le problème, il n'est pas là. C'est que ça ne va pas. Et c'est accepté aujourd'hui le black. Vous le savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui acceptent. Et c'est Jésus qui dit dans l'Apocalypse, là, mais tu laisses faire, tu laisses Jézabel enseigner, voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on laisse enseigner certaines choses, voilà, c'est, mais non, c'est pas grave, écoutez, vous avez vu, tel ministre, il a détourné 200 millions, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est, 1 000 euros à côté. Mais c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que Dieu pense. David a fait selon ce que les autres pensaient, et ça a fait qu'un de ses jeunes est mort. Et s'il avait pris le temps, alors que c'était un homme de Dieu, je peux vous dire que ça nous met tous à carreau, si on prenait le soin de relire les actes, le mieux, c'est ça, c'est de lire les actes. Et je crois que le Saint-Esprit peut nous parler. Et je termine avec ce texte dans Ésaïe 40, où nous voyons que lorsqu'on se prépare, Jean-Baptiste a préparé le peuple. Est-ce que Jean-Baptiste a préparé la venue de Jésus? Oui. Jésus aurait pu venir sans Jean-Baptiste, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous ne me faites pas dire que je sors de la doctrine, mais Jésus aurait pu arriver comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Dieu a préparé la gloire de Dieu par Jésus-Christ avec Jean-Baptiste. Il est dit qu'il a préparé un peuple bien disposé. Et si nous voulons que Jésus non seulement habite, mais marche au milieu de nous, il faut vivre ce qu'on va terminer maintenant. Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. ça veut dire que Dieu a du mal à se faire entendre. Ça, ça veut dire une voix qui crie. Parce qu'il aurait pu dire « Dieu dit ». Mais vous voyez ça, une voix crie, ça veut dire que le peuple est sourd. « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Verset 5. « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. » Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et si nous sommes sérieux, et si nous disons, eh bien, on va préparer. Je me suis préparé à te rencontrer, béni soit Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ça c'est bien. Je suis prêt à te rencontrer, je suis couvert par le sang de Jésus. Je sais que si je devais mourir, même si ce n'est pas le grand, je ne suis pas bouillant pour toi, je sais que je suis prêt à te rencontrer. Mais de la même manière qu'on s'est préparé à rencontrer Dieu, on peut se préparer sur la terre à voir la gloire de Dieu dans l'Église. Et ce n'est pas une question de géographie, là, de topographie, c'est ces montagnes et ces vallées. Peut-être il y a de l'orgueil dans mon cœur, et bien tout ça, il faut que ça descende. Peut-être il y a des choses qui doivent monter, descendre, parce que le Seigneur, il ne marche pas n'importe où. Je suis désolé, le Seigneur, il est omniprésent, c'est vrai, mais la gloire, il la manifeste dans une église où on lui prépare le chemin. Alors, c'est une question individuelle. Chacun, c'est dans sa vie personnelle, dans son culte personnel, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie relationnelle, dans tous les domaines. Que dans tous les domaines, je puisse dire, bon, ça, est-ce que ça te plaît, Seigneur? Ça ne te plaît pas? Non, mais j'arrête. 5 heures sur le net par jour, ça ne te plaît pas? Non. Eh bien, ça va passer à 1 heure. Je crois que Dieu nous a donné un cerveau, de l'intelligence. Et je crois que quand on obéit à Dieu, quand on a la crainte de Dieu, on le verra plus tard, on a la paix. D'ailleurs, vous lirez, vous verrez, un homme qui a la crainte de Dieu, il est en paix. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors écoutez, moi, je vous le dis, vous ne pensez pas que je vous jette des fleurs, j'ai tant de progrès à faire. J'ai passé la journée devant le Seigneur. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, et à force de prêcher, des fois on a plein de pensées dans la tête. Et on ne sait plus quoi prêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je peux faire 10 prédications dans la journée. Je peux les préparer. Si je me tiens bien de 6h à 10h du soir, je peux les faire. Mais je n'avais pas envie de préparer mes prédications. Quand je suis venu ce matin à l'église, pour être seul, j'étais imprégné par ces images d'Ananias, de Saphira, d'Ophni, de Phinès, de Ouza, et je voyais cette gloire qui amenait le jugement direct, et je voyais quand il n'y a plus la gloire que le jugement est reporté. Et je pense qu'il faut que l'Église travaille le sujet de la crainte de l'Éternel. Vous êtes d'accord? Et je crois qu'on verra la gloire du Seigneur. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais moi, je m'attends vraiment à ce que si la gloire de Dieu vient, il y ait des choses qui risquent de nous étonner vraiment. Mais ça sera bien. Vous savez, le pécheur, il ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Et si nous nous appliquons, je pense que nous verrons ces choses. Mais de la même manière que certains pécheurs ne pourront pas résister, il y a des gens qui chercheront Dieu qui viendront. Parce que Dieu les attirera. Enfin, une chose est sûre, nous voulons voir la volonté du Seigneur. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques minutes, 5-10 minutes, pour prier, peut-être courtement, mais peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier. Mais ne partons pas comme ça. Je ne peux pas partir comme ça, on termine, on fait les annonces, on s'en va. Est-ce que vous êtes d'accord que plusieurs prient dans ce sens? Peut-être vous n'avez jamais levé la voix. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon. Peut-être que vous avez besoin de vous repentir. Peut-être que vous avez besoin de vous convertir. Peut-être que vous avez besoin de régler un problème. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous. Mais déjà, recueillons-nous. Recueillons-nous, on est sous le regard de Dieu. Dieu, il nous aime. Dieu, il aimait Ophni, Phiné. Il aimait Ananias et Saphira. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qu'on ne s'amuse pas avec la gloire de Dieu. Ça, c'est une chose qu'il faudra comprendre. Si nous soupirons après un réveil, on ne rit pas avec la sainteté de Dieu. Dieu ne sera jamais un copain. Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Prions quelques instants. Prions dans nos cœurs. Prions en haute voix. Je ressens dans mon cœur ce besoin que peut-être quelqu'un... Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui ? Approchez-vous. Approchez-vous. Quelqu'un éprouve le besoin peut-être de, dès que ça sera fini la prière, vite, 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 de vous éclipser et peut-être de vous agenouiller chez vous dans votre chambre. Mais demandons à Jésus de nous enseigner la crainte de l'Éternel. Notre Père, nous savons que tu es présent. Et nous essayons de nous imaginer ce qui pourrait se passer si tu manifestais ta présence. Ce que nous croyons, c'est que c'est ça que tu veux. Manifester ta présence, marcher au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous enseigner la crainte de l'Éternel. Seigneur, je te demande de m'inspirer, vraiment de me communiquer la pensée pour que je puisse enseigner l'Église et m'enseigner moi-même dans la crainte de Dieu. Afin que comme David, malgré nos maladresses, tout soit fait pour que l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, se manifeste sur l'Église. Nous te prions déjà pour le culte de dimanche. Seigneur, prépare-moi, Seigneur. Aide-moi à me préparer afin de partager ce sujet sur la gloire et le jugement. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette sensibilité. Donne-moi de prendre le temps qu'il faut pour me tenir devant ta face. Seigneur, nous ne voulons pas laisser la brèche à l'ennemi. Nous voulons que ce soit le ciel qui s'ouvre. Seigneur, et que les anges descendent et que la puissance manifeste et que ton bon esprit baptise. Oui, Jésus, nous sommes sous ton regard et nous te supplions d'agir pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus.